Europe 1. La libre antenne. Catherine Blanc.
Bonsoir, heureuse de vous retrouver sur cette libre antenne d'Europe 1 et ce d'autant plus que c'est ma dernière semaine avec vous cet été. Alors profitons les uns des autres durant ces 4 prochains jours. Venez vous raconter, je suis là, au 39-21 pour vous écouter et faire de mon mieux pour éclairer votre compréhension quant à la singularité de votre situation. Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble, dit le proverbe africain. Eh bien, nous avons 2 heures de direct pour être ensemble et échanger autour de vos histoires et expériences de vie. Et ça et là, enrichi des SMS des auditeurs compatissants et pleins de bonnes idées. Fanny et Kevin vous attendent au standard, leur numéro, le 39-21. Alors appelez vite pour être assuré de passer à l'antenne ce soir ou dans les jours prochains. Mais si vous préférez faire l'envoi de SMS, c'est au 7-39-21, suivi du mot « nuit » en majuscule et de votre message. Frédéric Dervin réalise ce soir cette émission. Soyez les bienvenus, la Libre Antenne, c'est maintenant, 39-21.
Venez vous confier à Catherine Blanc sur Europe 1.
Et nous recevons Babette. Bonsoir Babette.
Bonsoir Catherine, merci de m'accueillir.
Oh mais merci d'être là avec moi, c'est formidable. Oui. Alors racontez-moi Babette, quel est votre sujet?
Alors je vais planter le décor, c'est-à-dire que je suis une femme qui vient d'avoir 71 ans.
Oui.
J'ai été mariée 33 ans avec un monsieur avec qui j'ai eu 3 enfants. Mm-hmm. S'il m'a quitté le 1er février 2008, procédure de divorce qui a duré jusqu'en 2012.
Jusqu'en 2012,
2012,
c'est ça ? Oui, d'accord.
2012, avec divorce très très conflictuel, car mon ex-mari de toute façon ne m'aimait plus, c'est ce qu'il m'a dit. Enfin, il avait 6 ans de moins que moi, hein, donc lui il a actuellement 65 ans.
D'accord.
Et il m'a dit ouvertement, je ne t'aime plus, je ne serai pas ma retraite avec toi. Donc il est parti. Depuis, il a une personne avec qui ça se passe très très bien, même vis-à-vis de mes enfants. Donc pour lui, tout va bien. Mm-hmm. Mais moi, je vis très chaotiquement, c'est-à-dire que j'ai eu du mal déjà. Ce divorce m'a beaucoup chahuté. Enfin, j'ai été très 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 mal. Et puis, après, dans l'année 2009, je me suis mise sur un site de rencontre fin novembre 2009. Et j'ai rencontré un monsieur qui habitait pas très loin de chez moi, à 5 kilomètres, dans la ville d'à côté. Oui. Alors, ce monsieur, je l'ai rencontré une première fois. Il est venu se présenter chez moi à l'époque. J'habitais encore dans la maison familiale. On a pris un café, on a discuté, tout ça, et puis bon, il est parti en me laissant ses coordonnées et tout ça, moi aussi. Et je ne l'ai pas revu pendant quelques mois. Mm-hmm. Et puis en janvier, donc 2009 se passe, fin 2009, début janvier, fin janvier, je reçois une vidéo de vacances, sans plus de commentaires, et puis bon, de temps en temps, un petit message.
D'accord.
Et puis c'est tout. Et donc ça, c'était donc de 2009-2010. Fin 2011, je le revois dans les rues de la ville où il habitait. Mm-hmm. Donc il était un sac, c'était pendant les soldes. Donc on se dit bonjour, tout ça, puis il me dit « j'aimerais bien te revoir ». J'ai dit « si tu veux ». Donc on prend date, et puis au mois de janvier, suivant, donc ça c'était donc 2012, je le revois juste avant que je parte en vacances, mmh. fin janvier. Et là, il me dit, j'ai rencontré quelqu'un en même temps que toi, je suis avec cette personne. Ben, j'ai dit, très bien, on reste copains, donc on reste copains. Et donc, dans l'année 2012, cette personne avec qui il était, ça n'allait plus. D'accord. Donc, elle est repartie chez elle. Elle habitait dans le Loiret, cette femme. Mmh. Et puis, il a fait appel à moi. Donc, on s'est vus, revus. Et comme il avait un appartement dans la ville où il habitait, et moi dans la petite ville à côté, donc on se voyait fréquemment. Chacun, on gardait chacun nos distances, mais on se voyait pratiquement tous les jours. Hein. On allait chez l'un et chez l'autre. Mmh. Et puis...
C'était toujours d'ordre amical ou on était passé là plutôt quelque chose
d'un... passé à la vitesse supérieure. D'accord. On avait des relations intimes et ça se passait très bien, mm-hmm. en plus. Donc voilà. Et puis il m'a emmené... Il avait un mobilhome à l'époque à Saint-Hilaire-de-Riez. Donc on allait à Saint-Hilaire de temps en temps. Et puis un jour, je ne sais pas trop ce qui s'est trop passé dans ma tête et dans la sienne. On s'est disputé beaucoup, et il m'a ramené chez moi. Mmh. Et puis, il m'a ramené chez moi, toutes les affaires, tout ça. Et puis, j'ai appris après qu'il était reparti avec son ex.
Donc, la fameuse qui l'avait rencontrée en même temps que vous.
Sur le même site de rencontre, dans le Loiret. Donc, pour ne pas nommer la ville, c'était Orléans. Mmh. Et puis, il repart avec elle. Et au mois de mai, il me rappelle. D'accord. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je veux te revoir, avec cette personne que je nomme pas, mais bon, c'est fini, gnagnagna. Donc, il repart avec moi. Et ça, pendant les ruptures et les retrouvailles, tout ça jusqu'en 2014.
D'accord.
Voilà, et en 2014, il décide définitivement d'avoir une relation très sérieuse avec moi, c'est-à-dire qu'il ne voulait plus en entendre parler, tout ça. Donc et il est venu chez moi, habiter avec moi, mais chez moi. Mmh. Donc 2014, malheureusement.
Qui vous rendait heureuse, vous étiez.
J'étais très amoureuse de cet homme, mm-hmm. Franchement. Et lui, c'était pareil. Hein, il y avait eu un coup de foudre qui m'a avoué bien après.
D'accord.
Donc, au mois de novembre, je perds mon papa. Il se suicide à 91 ans. Donc, le jour de ma fête, en plus. Mm-hmm. Donc, évidemment, j'étais très choquée. Très, très, très choquée. Donc la famille s'est réunie. Bon, il était rentré dans la famille en plus. Moi, mes enfants, je l'avais fait connaître à mes enfants, qu'ils l'avaient bien accepté, et à la famille aussi. D'accord. Parce que je suis l'aînée d'une fratrie de 12.
D'accord.
De 12 enfants. Mm-hmm. Donc voilà.
Et lui-même avait des enfants?
Alors, il a. C'est un homme qui est divorcé, qui a trois filles, et dont deux de ses filles, il ne s'entend pas, il ne leur cause pas depuis le divorce avec leur maman.
D'accord.
Il ne voit que celle du milieu. Et avec celle-là, j'ai des contacts encore actuellement. On arrive en 2014, donc ça se passe très bien. Et en 2015... j'étais obligée de partir de la maison familiale. Mon ex-mari m'a donné l'ordre de partir. Je n'avais pas besoin d'avoir une maison avec quatre chambres et tout ça. Donc, je suis partie. Et là, se pose le problème où je vais. Donc, il me dit, j'ai un petit héritage. Je vais acheter une maison dans la ville où tu es parce que tu aimes beaucoup. Ça faisait 40 ans que j'étais dans cette ville-là. Tout le monde me connaissait. Mmh. Donc, il me dit, je vais essayer de trouver quelque chose qui te convienne, qui nous convienne, et je vais acheter la maison. Okay. Donc, il achète une maison avec quatre chambres, un sous-sol, enfin, le rêve, quoi. Pour moi, mmh. le rêve. Mmh. Et donc, on s'installe tous les deux avec des travaux, il fait des travaux, tout ça. Mais il l'a acheté pour me faire plaisir. Il l'a clamé bien des fois qu'il avait acheté cette maison-là pour moi, en fait.
Mm-hmm. Pour répondre donc, à votre goût et à votre besoin.
Voilà, et c'est vrai qu'il m'a laissé faire la déco. Il a fait énormément de travaux. Hein. Il a pratiquement tout refait, d'ailleurs. Mmh. Bon, ça, c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé dans cette maison. Et puis, bon, on a vécu donc 5 ans ensemble dans cette maison. Et fin 2019, il a vendu son appartement dans la ville d'à côté.
D'accord.
Et au mois de décembre, il me dit, oh, ben, écoute, pour ton Noël et pour tes 70 ans prochains, je te paye un voyage à La Réunion. Alors moi, je suis tombée des nues, j'ai dit, oh, ben, écoute, ça me fait très très plaisir, je vais pouvoir enfin aller voir mon frère qui habite La Réunion.
D'accord.
Donc, voilà.
Donc là, on est vraiment dans une jolie histoire d'amour.
Oui, là, tout allait bien. Bon. Mm-hmm. Et puis, au mois de janvier, je ne sais pas ce qui s'est passé, on avait l'habitude, en janvier, d'inviter sa fille, ses deux petits-fils et sa petite-fille, au début janvier, pour fêter et Noël et le premier de l'an. Donc, on fait ce repas, comme tous les ans. Mm-hmm. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, quelle bouche l'a piqué ce jour-là. Mais bon, il dit aux enfants, enfin à sa fille, ben voilà, j'emmène ma bête à La Réunion, c'est son Noël, c'est pour ses 70 ans et tout ça. Bon. Puis au cours du repas, il y a eu une discussion. Et c'est un monsieur qui n'aime pas la contradiction, mm-hmm. Qui veut toujours avoir raison. Et ce jour-là, ben, je ne sais pas pourquoi, on était tous contre lui pour une discussion, alors je ne sais plus pourquoi. Il s'est mis très en colère et il a pété les plombs. Il a dit, vous commencez à me faire, voilà. Mmh. Alors sa fille me regarde, elle me dit, bah dis donc, quelle ambiance ici. Et puis je vais dans la cuisine, je reviens et il me regarde droit dans les yeux et il me dit, tu sais où tu es toi? Bah j'ai dit oui, je suis ici. Bah il me dit non, t'es chez moi.
Mmh.
Alors là,
votre sang n'a fait qu'un tour.
Ah oui, j'ai rien dit. J'ai rien dit, je suis repartie dans la cuisine, sa fille m'a suivie. Elle m'a dit, mais il te parle tout le temps comme ça. Ben, je dis, tu sais, il y a quelques fois, oui, il n'est pas si facile que ça. Et c'en est resté de là. Mais moi, j'ai ruminé, il ne s'est même pas excusé, sa fille est partie, tout le monde est parti, il ne s'est pas du tout excusé. Il a vu que je souffrais, mais rien du tout. Et puis, dans le mois de janvier, bon, ça passe, au mois de janvier, son frère, qui habite sur Paris, descendait. Pareil, il a un petit appartement au bord de la mer, donc il descendait nous voir en même temps. Et puis, donc, tous les ans, on faisait la même chose, petit repas. Et donc, sa belle-sœur me dit, Babette, j'aimerais bien aller voir le haut, j'ai jamais vu le haut. Bah, j'ai dit, écoute, c'est le moment, alors on va y aller. Et là-haut, elle me dit, bon, bah, elle regarde, elle me dit, effectivement, c'est très grand, elle me dit, tu te dépatouilles bien, bah, je dis, oui. Puis elle me regarde, et puis elle me dit, ça va, toi, avec monsieur, j'ai dit, tu sais, je suis un peu déçue. Elle me dit, il a toujours été comme ça avec les femmes. Et puis, il me dit, est-ce qu'il a des contacts avec l'ex,
hein? Du Loiret.
Alors, je lui dis, non, je ne sais pas. Mmh. Et puis, c'est tout. Et puis bon, ça passe bien, voilà. On arrive au mois de février, au moment du confinement. Alors là, ça a été autre chose. J'ai vu complètement son comportement changer. C'est-à-dire que le portable n'était jamais sur la table, ni rien du tout. Il était toujours dans ses poches.
Mmh.
Et puis au confinement, là, ça a pété. C'est-à-dire qu'il m'a traité de débile. Il fallait pas que je fasse le confinement. Lui, il partait tous les jours à 4 heures derrière avec un copain qui avait sa maison de derrière faire des boules. Tous les jours, il me laissait à 4 heures jusqu'à 20, enfin de 16h à 20h, 20h, 20h15. J'étais toute seule dans la maison et j'attendais monsieur pour manger.
Mm-hmm.
Voilà, pas un mot, rien du tout, pas un mot d'excuse, pas rien, rien, rien. Et puis de fil en aiguille, moi aussi, j'ai commencé à me poser des questions. Et au mois d'avril, j'ai fait une demande de logement. Je me suis dit, il faut que je parte parce que ça ne va plus du tout entre nous. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je me doutais un peu, mais bon, voilà, j'ai pris mes devants. J'ai fait une demande de logement. Et je pense qu'il a vu sur l'ordinateur cette demande de logement que j'avais mis dans les favoris. Mmh. Comme il servait toujours de mon ordinateur, je pense qu'il a dû regarder. Mmh. Il ne me l'a pas dit. Et au mois de mai, il a pété les plombs. Un matin, j'étais levée, moi je me lève de très bonne heure. Et lui, à 10h15, il n'était toujours pas levé. Je vais le voir, puis je lui dis « mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Je lui dis « tu n'étais pas encore levé ?» Alors là, ça a été le pétage de plomb. Oui, j'en ai marre. Je veux aller vivre au bord de la mer. Je veux plus rester ici. Tu commences à m'en... Enfin, des gros mots. Mm-hmm. C'est tout. J'ai dit, bah, écoute, si t'es pas bien, je suis malade. Voilà. J'ai dit, si t'es pas bien, tu prends ta voiture et puis tu vas voir ton médecin. Tu demandes un rendez-vous chez le médecin. Il me dit non, je vais prendre un cachet, et puis voilà, donc il a pris son cachet, et puis voilà. Et puis, de fil en aiguille, dans la même semaine, il me refait ça le samedi, ça devait être au début de la semaine, et le samedi, il va soi-disant faire le marché, je ne l'ai pas revu de la journée. Mmh. Il est rentré, alors j'ai téléphoné à une amie qui avait l'habitude de le voir. Et vers 16h, alors moi à midi et demi, je l'attendais pour manger, j'ai vu personne. 2h30, je ne vois personne. 4h, je téléphone à cette amie qui habitait dans la même ville, enfin dans la petite ville où j'habitais, quoi. Mm-hmm. Elle me dit, oui, il est là. Elle me dit, va falloir vous expliquer. Donc, il rentre vers 19h, et puis là, je l'ai attendu. Comme lui, il n'aime pas les explications, il fuit les explications. Oui, je lui dis non, tu vas t'asseoir, et puis on va s'expliquer. Et puis, je lui dis, écoute, c'est simple, on va se séparer, parce que je vois que ça ne va plus. Il ne m'a pas donné d'explication.
C'est vous qui avez dit ça, hein ? C'est vous qui avez proposé la séparation.
Oui. C'est moi qui a devancé le truc, hein, parce que je voyais bien que de toute façon, il cherchait à me le dire, mais comme il ne sait pas dire les choses, voilà. Et en plus, il m'avait fait une réflexion au sujet de... Parce qu'il avait été tondre la pelouse et puis il était revenu, il y avait un tapis rouge, j'avais des trucs noirs, il avait des trucs de pelouse qui étaient... Alors, j'avais rouspété. Il m'avait dit, de toute façon, tu vas bientôt finir seul. Mmh. Alors, je l'avais regardé dans les yeux. Puis, j'avais dit, je serai seul peut-être. Mais genre, moi, j'ai mes enfants. Je ne suis pas fâchée avec mes enfants. J'ai des amis. Et il dit, moi non plus, je ne serai pas seul. Et ça m'est resté.
Bien sûr.
Je me suis dit, il y a quelque chose en dessous. Mmh. Et puis, c'est tout. Et il est parti le 4 juin. Prétextant qu'il fallait qu'il prenne l'air.
Donc de cette année
De l'année dernière. Le 4 juin 2020, il est parti avec des affaires pour aller au bord de la mer en me disant, de toute façon, il faut que je prenne 15 jours de vacances. Alors je lui ai même fait sa valise. Il me dit, qu'est-ce que je prends pour 15 jours? Je lui dis, écoute, tu prends ça, moi, toute bête. Et puis, j'ai vu. Par rapport à l'autoroute, mm-hmm. Qu'il était reparti à Orléans, tout mm-hmm. simplement. Mm-hmm. Donc j'ai compris tout de suite qu'il était reparti voir son ex. Et effectivement, il était avec elle. Il a donc acheté, il a vendu. Alors, on a vendu la maison en une journée. Mm-hmm. Ce qui a fait qu'il a fallu que, au mois de juin, je me dégage de la maison. Mmh. Alors, j'avais pas mal de meubles et tout ça. Mes enfants sont venus chercher tous les meubles qui les intéressaient et tout ça. Donc, j'ai retrouvé actuellement, je suis dans un petit appartement sur la ville à côté, dans un petit 52 mètres carrés, alors que j'avais toujours eu des maisons. Mmh. Et donc, il a acheté un appartement à Royan. Mais je pense, maintenant avec le recul, qu'ils avaient bien ficelé leur truc. Vu qu'elle avait un appartement à Orléans, elle lui a dit, tu vends ta maison et tu achètes un appartement au bord de la mer. Mmh. Je pense que c'est ça qui s'est produit. Mmh. Et puis donc, ça se passe, pas de nouvelles, rien du tout. Et au mois de novembre, fin novembre, c'est-à-dire vers le 20 novembre, je reçois un appel de ce monsieur sur WhatsApp. Je décroche. Il me dit voilà, j'ai des problèmes avec mon portable, je ne peux plus envoyer de message, je suis seule, je voudrais, alors ça c'était en message, je voudrais que tu te parles, donc, mais à condition que tu n'en parles pas aux amis et à la famille. D'accord. Donc je lui réponds, tout à fait d'accord. Bon. Je l'ai en visio, en WhatsApp, il se met à pleurer. Mmh. Bon. Je lui dis, écoute, non, ça suffit, tu ne pleures pas. J'ai dit, sans quoi, moi, je raccroche, hein, c'est pas la peine. Donc, voilà, et il me parle, et il me parle, et il me parle de cette femme. Mmh. Et il me parle de cette femme dans des termes pas très élogieux. Il la démonte complètement. Et puis de là, jusqu'au 7 décembre, on se voyait 4 fois par jour en visio. Mmh. Et il me faisait croire, à l'époque, il me faisait croire que j'allais revenir avec lui. Et moi, ça me faisait plaisir aussi, hein, j'y tenais. Hein, donc voilà quoi. Il me dit, oui, bah, tu verras quand tu viendras. Alors il m'avait fait voir l'ensemble de son appartement avec, il me dit, tu connais les meubles, voilà, oui, pas de problème. Et puis voilà, jusqu'au 7 décembre. Et puis le 7 décembre, dans l'après-midi, moi qui randonne pas mal, je pars en marche et je lui dis, il me voit partir en visio et il me dit, à tout à l'heure. Je lui dis, ben oui, tout à l'heure, vers 4h30, 5h30, voilà. Et depuis ce jour, cet après-midi-là, pas un mot.
Donc là, donc depuis décembre dernier.
Décembre dernier, donc depuis le 7 décembre. Alors, je lui ai mis plein de messages, lui demandant des explications. Je lui parle aussi de cette femme. Je lui dis, peut-être que tu as pris une décision de retourner avec elle. Je lui dis, j'aimerais bien savoir, coûte que coûte.
Vous avez renvoyé des messages et lui ne répond pas. Il vous laisse sans nouvelles.
La seule réponse que j'ai eu deux réponses. J'ai eu une réponse, je ne viendrai, parce qu'il était, possible qu'il vienne le 14 décembre, parce qu'il fallait qu'il aille chercher un vélo électrique qu'il avait acheté à Paris, chez son frère, c'est son frère qui avait acheté. Donc, il redescendait, bon, j'habite dans la Sarthe, hein, il redescendait sur la Sarthe pour redescendre après sur Royan. Il faisait accrocher sur la Sarthe et il m'avait dit, à ce moment-là, est-ce que tu es disponible le 19 et le 20 décembre ? Et comme sa fille habite à côté de Tours, il m'a dit, ma fille m'a invitée le 21 et le 22 décembre. Je dis, pas de problème. Et puis, le deuxième message, c'est, je ne veux de contact avec personne. Alors moi, là-dessus, je me suis dit, il est en pleine déprime. Pour moi, c'était ça. Bon, rien du tout. Tout le mois de décembre, alors chaque semaine, je lui mettais bonne semaine. À Noël, je lui mets joyeux Noël. Premier de l'an, je lui ai souhaité ça, le premier de l'an.
Et lui, encore une fois, il ne donnait pas de message en retour.
Non, pas du tout. Et alors, je lui ai même souhaité son anniversaire le 21 janvier.
D'accord. Et aujourd'hui, alors pour maintenant rebondir à la période actuelle qui fait votre appel, Babette, aujourd'hui, vous en êtes où? Vous n'avez toujours pas eu de nouvelles? Et comment allez-vous, vous?
Ah oui, alors attendez, parce que la suite, c'est coton. C'est à partir de là que ça a dérapé. Vers le 26 janvier, je reçois un appel d'une amie qui a toujours des contacts. Elle le contacte assez souvent. Qui me dit, j'allais garder mes petits-enfants, qui me dit, j'ai oublié de te dire, j'ai vu Michel, excusez-moi, j'ai vu monsieur le 10 décembre. Je la laisse parler. Et puis là, je lâche le morceau. Je lui dis, non, c'est plus possible. Moi, je vais te dire ma vérité. Je dis, voilà, monsieur, je l'ai vu en visio pendant une dizaine de jours, 4 fois par jour. Alors là, elle me dit, mais c'est pas possible, il m'a menti. J'ai dit, peut-être, mais c'est comme ça, il faut que tu l'entendes aussi. Et puis bon, elle me dit, si jamais il me retéléphone, ça va, je vais lui dire ces 4 vérités. Et le lendemain, elle me rappelle le matin, je partais l'après-midi, moi, par le train, et elle me rappelle et elle me dit, j'ai oublié de te dire bonne semaine chez tes petits-enfants, tout ça. Et tout de suite, elle me dit, en même temps, elle me dit, oh là là, il appelle. Elle me laisse le téléphone fixe, le haut-parleur, et elle, pendant ce temps-là, elle lui a... Alors, vous auriez vu la furie. Ah ben alors là, j'ai été cataloguée de tous les noms. Que j'étais une femme entretenue, que je ne l'avais aimée que pour son chéquier et sa carte bleue, parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas d'argent, j'ai qu'une toute petite retraite. Enfin, bon, j'avais que franchement, j'étais la moins que rien. Alors là, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai marqué tout ce que j'avais envie de lui dire sur WhatsApp. Ça, c'est sûr. Et depuis, je n'ai aucune nouvelle. J'avais bloqué, j'avais eu aucune nouvelle, sauf que fin mars de cette année, il m'a demandé en ami sur Facebook.
Alors justement, donc vous êtes ami sur Facebook et maintenant où en est-on ?
Alors, où j'en suis maintenant ?
J'essaie de savoir où on en est aujourd'hui, Bebette.
Alors aujourd'hui, non, je n'ai plus de nouvelles, en ce sens que j'ai appris par un ami commun qui a pris de mes nouvelles il y a 15 jours, 3 semaines, qu'il n'était plus avec cette personne, qu'il l'avait laissée fin mars, et ça correspond à ce qu'il m'a demandé en ami sur Facebook, vu que moi j'avais bloqué ses numéros de téléphone. Et j'ai appris depuis, c'est lui qui me l'a dit d'ailleurs, enfin, le monsieur en question, là, l'ami en question, qu'il s'était mis sur un site de rencontre et qu'il avait rencontré une certaine Claudine qui s'entendait bien avec elle. Ça fait 3 mois qu'il est avec elle, qu'elle est propriétaire de sa maison, qu'elle aime danser, que tout va bien. Tout va bien, il est en pleine lune de miel.
D'accord. Voilà. Et vous alors, Babette ? Vous allez comment ?
Pas très bien.
Pas très bien,
parce que j'aime toujours cet homme, en fait. J'arrive pas à m'en détacher, du tout.
Et qu'est-ce qui fait, Babette, qu'on aime quelqu'un qui connaît aussi fortement les hauts et les bas, qui est capable de dire le pire après vous avoir proposé le meilleur ? Qu'est-ce qui fait que, comment comprenez-vous que malgré cela, vous ne tenez pas rigueur et que vous imaginiez encore tous les possibles ? C'est une question un peu compliquée, parce que si vous saviez y répondre vous ne m'appelleriez même pas d'ailleurs. Mais c'est assez important aussi même pour nos auditeurs, parce que c'est vraiment assez classiquement quelqu'un avec qui on est, qui est désobligeant ou qui est violent verbalement ou parfois physiquement. Et qu'est-ce qui fait qu'on reste avec cette personne ou qu'on continue à la rêver, à rêver le temps d'avant et le temps de la lune de miel, comme vous le disiez, revenu. Ouais. Qu'est-ce que vous avez imaginé de possible ? C'est parce qu'il a quitté plusieurs fois cette autre femme que vous vous dites qu'il va finir par revenir, parce qu'il va se rendre compte que c'est moi, c'est ça ?
Oui, vous êtes dans le vrai. C'est ce que j'arrive pas à me détacher de cet homme, parce que je l'aime encore, en fait. Et je me dis des fois, je me culpabilise, je me dis, si ça se trouve, j'aurais peut-être pas dû partir de la maison et mettre les choses bien à plat, en fin de compte, peut-être, je sais pas.
En fait, il y a un mot qui me paraît important quand vous dites « je n'arrive pas à me détacher de cet homme ». Je trouve que ce mot est intéressant parce qu'il résonne dans d'autres choses que vous avez pu me dire et qu'on peut retrouver chez vous et chez lui. C'est une notion de dépendance. Et c'est compliqué parce qu'il me semble que cet homme est dans une réelle dépendance affective qui fait que dès que ce n'est plus exactement son confort, vite, hop, à pieds joints, il saute sur la personne d'à côté. Donc c'est pour ça qu'il a fait des allers-retours entre cette autre femme et vous, comme s'il ne pouvait pas finalement jamais vivre tout seul et comme s'il ne pouvait pas supporter la moindre contradiction, un petit peu comme un enfant qui est capricieux, qui a besoin d'être sécurisé par quelqu'un qui va toujours abonder dans son sens, et comme une maman qui serait là au quart de tour. Et si elle n'est pas là, vite, il faut que quelqu'un d'autre s'occupe immédiatement de lui, sans quoi il est perdu et déprimé. Donc il me semble qu'il a un schéma psychologique, de ce que je comprends au travers de vos mots, bien sûr, sinon c'est un peu de la psy de comptoir, mais c'est quelqu'un qui a un fonctionnement affectif de type addictif. Et le principe de l'addiction, c'est que finalement, je suis dépendant, je ne peux pas faire sans l'autre. Et quand l'autre, évidemment, me contredit ou me déstabilise, je perds mon équilibre. Du coup, j'en veux à l'autre et je trouve rapidement quelqu'un d'autre pour pouvoir me mettre en sécurité, sans quoi je sombre dans mes propres tristesses et dans ma déprime, et parce que je ne me sens pas apte à me porter moi-même.
Donc, oui, c'est tout à fait ça.
Ça vous...
tout à fait ça.
D'accord. Donc ouais. ça c'est de son côté à lui. Et de votre côté à vous, Babette, eh bien, vous dites des mots un peu similaires, qui ont un accent un peu différent, mais on est toujours dans une notion d'addiction, puisque lui, il vous dit « tu n'es avec moi que pour mon portefeuille, mon argent », comme si vous étiez donc dans une dépendance financière, que vous me dites vous-même que vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à vous détacher de lui, comme vous me disiez, et vous, d'ailleurs vous vous en êtes rendu compte vous-même, vous avez eu un très beau réflexe d'ailleurs de survie, c'est que, évidemment, il vous a dit « tu es dépendant de moi », puisque tu es dans ma maison. Et donc,
oui,
votre réflexe a été de chercher rapidement quelque chose pour vous loger. Et ce qui me fait dire qu'il est dans une dépendance, c'est qu'il a besoin de vous sentir dépendant de lui, tout en vous en faisant le reproche, parce que si vous êtes dépendante, il est assuré que vous n'allez pas le malmener d'une certaine manière, parce que vous allez être soumise à l'attente. D'ailleurs, il vous met sur le grill, hein, quand il sort, qu'il rentre tard, que vous attendez pour dîner. D'une certaine manière, il vous met dans une situation un peu de soumission, et vous acceptez cette soumission parce que vous-même, vous vous sentez dépendante. Donc, c'est intéressant parce que, vous voyez, Babette, dans la relation amoureuse, nous construisons nos relations amoureuses au travers d'abord de nos premiers élans d'amour qui sont à destination de notre maman, dont nous dépendons complètement. Elle est là pour nous nourrir, nous changer, être à l'origine de notre sauvegarde. Viendra bien sûr papa, dont l'enfant prendra vite conscience. Mais petit à petit, tout l'art de l'enfant, c'est de s'autonomiser. D'ailleurs, dès que l'enfant marche, il a un plaisir fou à aller dans la pièce d'à côté pour vérifier qu'il a la compétence à quitter la mère, à quitter sa mère et à découvrir un autre univers. Mais en général, ça ne dure pas bien longtemps, parce qu'à peine l'a-t-il quitté, qu'il pleure, qu'il est anxieux. Regardez tous ces enfants qu'on retrouve partis à l'aventure dans les grandes surfaces et qu'on retrouve en pleurant parce qu'ils ont perdu leur maman dans un espace, parce qu'ils réalisent leur incompétence à pouvoir faire tout seul. Donc notre façon d'aimer commence là-dessus. Et évidemment que nous devrions pouvoir mûrir au fur et à mesure et nourrir notre relation amoureuse dans la confiance que l'on a dans l'autre, dans la capacité que nous avons à le retrouver, et puis aussi à pouvoir s'en départir un temps, tout en continuant à être heureux, parce qu'on fait d'autres choses, on rencontre d'autres gens, on se nourrit ailleurs, et puis on revient voir son partenaire ou sa partenaire. Donc évidemment que ça, c'est un peu dans l'idéal, c'est le plaisir d'avoir grandi, de s'être autonomisé, mais souvent c'est pas très bien pris par les gens qui nous aiment, parce qu'ils ont le sentiment que si on peut s'autonomiser, c'est qu'on n'est pas amoureux. Et souvent nous confondons la notion d'être amoureux avec une notion de dépendance et de fusion, de ne pas pouvoir faire sans l'autre. Mais le problème, c'est que la fusion, elle est souvent extrêmement anxieuse, elle est très agréable, et puis elle devient anxiogène parce que l'un et l'autre se trouvant dépendants de l'autre, il y a une grande anxiété à l'idée d'être quitté, à l'idée d'être soumis, etc. etc. Vous comprenez?
Je lui ai dit, hein, mais là je suis suivie par une psychologue sur le Mans, là, hein, où j'habite, hein, et elle m'a posé la question de sa jeunesse, enfin auprès de sa maman. Mm-hmm. Et je sais qu'elle m'a toujours dit qu'il était le vilain petit canard de la famille. Mm-hmm. Il n'a jamais été dorloté. Enfin, et moi c'est pareil, j'ai pas eu, voilà, étant donné la grande fratrie qu'on était, ma maman n'a
pas eu la disponibilité.
Elle a été froide, maman. Donc, voilà, j'ai pas eu les élans de tendresse qu'il aurait fallu, peut-être. Chacun de notre côté.
Voilà, vous faites une très, très belle association. Vous avez bien compris le mécanisme. C'est-à-dire que quand un enfant a manqué furieusement de l'attention, de la tendresse, de l'attachement, d'une certaine manière, de sa maman à lui, eh bien, il a une idée très dévalorisée de lui-même et il peine à créer des liens, où il a aussi une idée à dévaloriser, mais il cherche désespérément à qui se, s'attacher, s'accrocher et qu'il aimera sans condition aucune. Et d'ailleurs, et il ne supporte évidemment pas, en tout cas lui, il ne supporte pas d'être contredit parce qu'il y voit la froideur ou le jugement du vilain petit canard. Quand il vous dit « je voudrais te parler mais que personne d'autre ne le sache », c'est encore une fois ne pas nourrir une idée de vilain petit canard pour toute la communauté familiale ou sociale qui pourrait le juger. Et puis c'est une façon d'avoir sa maman pour lui tout seul sans avoir à la partager avec une communauté qui, dans son histoire, c'est la communauté des enfants de la fratrie en quelque sorte. Et voilà. Et donc il est dans sa souffrance. Donc ce n'est pas ce qu'on se dit là. Évidemment, on pourrait dire à quoi bon, puisque de toute façon, on ne peut pas faire du bien aux gens indépendamment de leurs souhaits et puis surtout à distance. Et en plus, on part d'un être qui n'est pas en train de nous parler. Mais c'est important dans le sens où ce n'est pas vous qu'il n'aime pas. Et c'est à ça que je veux en venir. Parce que ce n'est pas vous qu'il n'aime pas. Il rejoue son idée de ne pas être aimable et son besoin d'être aimé de quelqu'un qui n'a pas de vie propre. Parce qu'il confond la difficulté qu'a eue sa mère de créer du lien avec lui avec une mère qu'il n'aurait pas aimée, alors qu'en réalité, elle était à autre chose ou elle était dans l'incapacité pour X raisons. Donc, du coup, il a le sentiment, dès qu'on ne le regarde pas de façon exclusive et enamourée et soumise, il a le sentiment que c'est la preuve d'un désamour et qu'il va revivre cette histoire douloureuse de son enfance. Donc, ce n'est pas vous qui n'aime pas, sauf que comme il est violent dans son propos, eh bien, vous, ça réactualise aussi la froideur de l'autre qui vous aimait et vous promettait monts et merveilles et qui, tout d'un coup, eh bien, évidemment, se retrouve la plus grande des frustrations, comme la petite fille derrière une grosse, grosse fratrie, dans une grosse fratrie, noyée dans une grosse fratrie et qui, évidemment, peine à sentir sa valeur dans l'amour et dans l'attention particulière que tout enfant dont tout enfant a besoin.
Et puis moi, j'étais l'aînée en plus. Hein, donc
oui, on vous a demandé de renoncer, vous, à la tendresse au bénéfice des plus petits qui étaient dans le besoin immédiat de soins, évidemment.
Oui, tout à fait, tout à fait. Tout ce que vous me dites là, c'est tout à fait vrai. Et vous savez, quand il m'a parlé de son ex, là, maintenant, c'est son ex aussi, d'après ses dires, il m'a dit, de toute façon, elle me prend pour un enfant.
Oui, vous voyez. Ben oui. Voilà. Mais parce qu'on ne peut pas le prendre pour autre chose qu'un enfant, dans la mesure où il se comporte et rejoue ses histoires d'enfant. Donc ce n'est pas parce que cette femme est malveillante et le prend pour un enfant, c'est qu'il a un comportement d'enfant.
Et d'ailleurs, moi, je lui ai dit bien souvent, souvent il me disait, mais tu me prends pour un enfant.
Oui.
Je dis, tu agis comme un enfant.
C'est ça, vous voyez.
Je lui ai dit souvent ça.
Voilà, donc quelles que soient les femmes avec qui il est, comme il a un comportement d'enfant dans sa recherche d'amour, parce qu'il ne sait pas créer un amour d'adulte, c'est-à-dire dans sa compétence à aimer l'autre, Sans crainte et à laisser l'autre aller venir avec ses besoins et ses disponibilités, comme il confond tout avec comment on m'aime et qu'est-ce que je vaux à la mesure de comment on m'aime, eh bien évidemment, il est comme un enfant capricieux et tyrannique en quelque sorte, bien contre son gré d'ailleurs, hein, c'est sa souffrance psychique. Et résultat, évidemment, il se comporte comme cela et que vous le traitiez en enfant ou pas, de toute façon, quand il est en conflit, quand il est en difficulté, quand il est insatisfait, il y entend un jugement maternel qui est en train de le désaimer selon son histoire personnelle.
Oui, parce que je me souviens, ça me revient. Tout au début de notre relation, il comptait les « je t'aime » que je pouvais lui dire par moi.
Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est dire combien il faisait provision et combien il a été... il a eu le sentiment, en tout cas, d'être privé, fortement privé, d'amour, de tendresse et de la sécurité de cet amour dont tout être humain a besoin, bien évidemment. Mais vous voyez, dans son cas, ça entraîne ce genre de comportement où il saute à pieds joints d'une femme à une autre parce qu'il lui faut tout de suite, un peu comme on aurait une maman, une nounou, une maman, une maman, une nounou, une nounou, une maman, vous voyez.
Oui, parce que là, apparemment, c'est la lune de miel, il a dit à cette personne qui me l'a dit... Oui, tout va bien. Cette personne le prend comme il est. C'est
oui.
super.
Mais ça comme ce fut le cas avec vous, et où il vous a et où il a voulu aussi être l'enfant idéal, en étant l'homme idéal qui vous offre une maison. Et puis il vous dit évidemment que vous n'êtes qu'intéressé par son argent, alors que c'est lui-même qui a proposé cette compétence qui est la sienne de vous mettre dans le confort ou de vous offrir un voyage. Alors, est-ce qu'il faudrait ne pas avoir du plaisir à ce confort ou du plaisir à ces voyages ? Bien sûr que non, ça ne vous fait pas de vous quelqu'un qui ne s'intéresse à lui que pour ça, bien évidemment.
Mais ça m'a beaucoup blessée. Ce que j'ai entendu au téléphone, ça m'a beaucoup blessée parce que j'aurais jamais pensé qu'il pensait ça de moi.
Mais encore une fois, il ne le pense pas de vous. Et c'est vraiment ce que je voudrais que vous puissiez retenir et auquel vous puissiez réfléchir et travailler éventuellement avec votre psychologue. Qu'il ne s'agit pas de vous, il s'agit de lui. Et évidemment quand il s'agit de vous, c'est en fait de la résurgence de votre propre histoire et de vos propres manques d'affection. Mais lui n'est pas en train d'épingler une réalité d'une femme qui ne serait pas aimable ou d'une réalité d'une femme qui est pleine de défauts. Des défauts, nous en avons tous, personne n'échappe à la règle. Mais justement, c'est son incompétence à faire avec le défaut de l'autre, c'est-à-dire les non-disponibilités potentielles de l'autre, parce que lui, il est en souffrance d'amour et ça ne parle que de lui. Donc, et je dirais même que ses colères et ces noms d'oiseaux qu'il vous envoie sont plus à l'intention de sa maman qu'à votre intention.
Ah ouais.
Et c'est ça qui se rejoue avec vous. Vous en êtes l'occasion. Pardon ?
Je pense qu'il y a aussi le problème de ses filles.
Bien sûr.
J'ai jamais compris qu'il ait coupé les liens avec ses filles.
Mais parce que là aussi, l'être humain est ambivalent. Il souffre de choses et il les reproduit lui-même. Et il en veut à la terre entière de ce qu'il ne peut pas obtenir. Et à la fois, eh bien, il est toujours mené un peu par le bout du nez, par son inconscient, à souffrir et se faire souffrir. Mais là, c'est son parcours qu'il a à faire de son côté psychologique. Si un jour il veut bien s'arrêter là-dessus, il le fera pas, Babette. Mais vous devez le faire pour pouvoir justement non pas prendre du large par rapport à lui, mais un peu de hauteur pour aimer les rencontres ou l'amitié ou l'amour, s'il devait y avoir encore pour vous de l'amour avec lui. Mais en tout cas, pas de la dépendance, parce que c'est cette dépendance qui vous fait souffrir plus que lui, d'ailleurs.
Beaucoup. Exactement.
Voilà, Babette. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Continuez ce travail pour comprendre bien les choses et reprendre un peu d'autonomie. D'accord.
Oui, merci beaucoup.
Très bonne soirée, très bonne nuit.
Europe 1. La libre antenne.
Vous êtes toujours sur votre libre antenne d'Europe 1, un numéro de téléphone, le 3921. Et si vous voulez envoyer des SMS pour participer des échanges que je peux avoir avec les auditeurs, c'est au 7 39 21, suivi du mot « nuit » en capitale et de votre message.
La libre antenne d'Europe 1, Catherine Blanc, accompagne vos nuits.
Et je reçois à présent Caroline. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Catherine.
Bonsoir. Je vous écoute.
Du coup, je voulais vous parler un petit peu d'un sujet qui me pose problème ce soir.
Oui.
J'ai trois enfants, pour vous citer un petit peu la situation. J'ai un mari avec qui je suis mariée depuis 10 ans.
Oui.
Et du coup, je pense qu'il est un petit peu jaloux.
Oui.
Et du coup, ça me pose des soucis parce que du coup, je reçois des messages, notamment sur Facebook, des gens que je ne connais pas.
Mm-hmm.
Enfin, que je connais, mais pas vraiment, en fait, que je connais par rapport à mes enfants, par exemple, voilà, qui gardent mes enfants à un centre de loisirs, voilà, des gens qui aiment mes photos de profil. Et du coup, mon mari n'aime pas du tout ça.
D'accord.
Donc, ça nous pose des soucis, en fait, en tant que couple, parce que
ça donne lieu à des crises de couple, à des disputes.
Oui.
D'accord.
Oui. Alors après, pour vous dire honnêtement, du coup, il y a à peu près 3 mois, en fait, j'ai eu, en fait, au tout début, quelqu'un qui a aimé ma photo de profil sur Facebook. C'était un jeune homme, parce que moi, j'ai 40 ans, et ce garçon, il garde mes enfants au centre de loisirs. Il a 27 ans.
Mmh.
Et du coup, il a mis en fait une de mes photos de profil et tout de suite, je l'ai dit à mon mari, oh, regarde, il y a le garçon qui garde nos enfants, qui a mis j'aime à la photo de profil, j'aurais peut-être pas dû.
Mm-hmm.
Donc, ma question en fait, c'était est-ce qu'il faut garder son jardin secret ou tout dire? Parce que du coup, c'est venu un petit peu plus inquiétant par rapport à notre vie de couple, parce que j'ai donc il a mis cette photo de profil et puis après en fait il m'a envoyé son snap. J'ai 40 ans, mais voilà, je suis pas trop perdue là-dessus. Je comprenais pas trop au début, mais voilà, on s'est très vite. Mais du coup, j'ai accepté son snap et il m'envoie des fois des messages.
D'accord.
Et je le dis et je raconte tout à mon époux. Voilà.
Et pourquoi avez-vous accepté? C'était par curiosité? C'est parce que vous le trouvez charmant?
Ben
c'est
pas, fait, c'est quoi? Parce qu'en fait, alors, parce qu'en fait, j'étais au départ contente que un enfant, enfin, j'allais dire un enfant, que
un
jeune homme, voilà, j'allais dire un enfant, de mon ami, voilà. C'est, après, au départ. Je voyais pas le truc, voilà, il y avait rien de tendancieux.
Mmh.
Et puis j'étais aussi peut-être un peu séduite parce que j'ai dit à mon époux que ça me faisait plaisir que quelqu'un, enfin voilà, qu'on se sente jolie à 40 ans parce qu'il y a quelqu'un qui m'en a mis. Donc après on ne sait pas, voilà, mais ça me faisait plaisir. Voilà. Mmh. C'est pour ça que j'ai répondu.
Et votre mari, alors justement, parlons d'abord de la relation avec votre mari. Vous dites qu'il est un peu jaloux. Bon, là, vous avez un peu plus planté le décor, le contexte de sa jalousie. Mais indépendamment de ça, comment va d'abord votre couple? Comment votre mari, quel regard pose-t-il sur vous?
Alors après, donc, effectivement, on a 3 enfants. C'est un petit peu compliqué au niveau, je vais vous dire, sexuel, parce que voilà, il arrive avec qu'il se passe beaucoup de pauses, voilà, pour situer à peu près 3 mois.
Entre 2 fois où vous faites l'amour, il peut
oui,
se passer 3 mois, d'accord,
de son fait à lui. Pas forcément. Plus lui que moi,
d'accord,
je veux dire. Mais
d'accord.
Pas, voilà, je parle voilà, non, de nous deux, mais après, c'est plus lui parce que lui, il a une entreprise, donc du coup, il est très fatigué.
Bien sûr.
Et du coup, ben, le soir, voilà, je peux comprendre que ça, je comprends totalement, mais je vais pas dire que je suis en manque, mais je demanderai de l'attention et j'aimerais bien que ça se passe un peu plus.
Voilà. Je comprends. Et ça, c'est depuis la naissance de vos enfants ou c'était déjà un peu avant?
Non, c'est arrivé, je pense, depuis, on va dire, 4 ans.
D'accord. D'accord.
Donc, ça, oui, ça, c'est sûr que ça me manque. Après, lui, il n'est pas forcément en manque là-dessus parce qu'il est... Il arrive dans son lit, il se couche parce qu'il est très fatigué, ça, je le comprends.
Mm-hmm.
Mais voilà, on en discute beaucoup. Voilà, ça me gêne un peu. Voilà.
D'accord. Et c'est un sujet que vous arrivez à aborder,
oui,
tous
à
les
aborder,
deux sans,
oui,
sans trop de con-
oui,
sans
totalement,
conflit, très tranquillement?
Sans c'est, conflit.
C'est parce que c'est parce que vous savez, c'est difficile, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Les couples font l'amour ou ne font pas l'amour, mais ne savent que peu en parler. Il y en a toujours un qui veut en parler plus techniquement, mais parler de ce qui fait qu'on ne le fait pas, qu'on le loupe, qu'on n'est peut-être pas toujours au rendez-vous, c'est une chose très compliquée.
Pour le coup, nous, on parle beaucoup de tout et de rien, et on parle notamment de ça. Et oui, je lui ai dit. Après, il est tellement fatigué que du coup, limite quand il veut un jour et que moi je peux pas, enfin voilà. Mais voilà, après ça pose problème. Il y a un problème. Après, il est très fatigué, donc après je peux comprendre, ça je le comprends.
Est-ce que vous partagez d'autres choses, hormis donc cette sexualité où vous vous loupez pas mal? Est-ce que vous partagez des choses qui sont joyeuses, auxquelles vous tenez beaucoup? Ou est-ce qu'il y a aussi des temps de rendez-vous loupés sur d'autres sujets? Autour des enfants, autour de votre vie, j'allais dire l'intimité n'est pas que sexuelle, l'intimité c'est aussi des échanges, des projections, etc.
Alors, au début, quand on s'est connus il y a 10 ans, on aimait beaucoup discuter, restait longtemps discuter, maintenant plus trop. Il est tellement fatigué, c'est pas de sa faute, donc je le comprends. Mais moi, j'aimerais bien discuter un peu plus avec lui. Voilà.
Et il est fatigué particulièrement en ce moment. Ça fait suite au Covid, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose non pas du tout
hein. Non, c'est parce qu'il a trop de travail. Voilà.
D'accord.
Après, alors pour en revenir à ça, je discute avec mes meilleures amies. J'en ai deux. Et après, j'ai parlé beaucoup à des gens qu'on a vus en soirée et qu'on discute depuis quelques mois, 6 mois, 1 an ou 2 ans. Mais en fait, ils deviennent jaloux par rapport à ça.
Avec vos amies filles?
Oui.
Vous le faites échanger avec
et
elles?
Et moi, j'en ai besoin parce que j'ai besoin de discuter. Alors, je n'explique pas toute ma vie, mais j'ai besoin de discuter. Quand lui, il me dit « je vais me coucher », moi, c'est ce qu'il me reproche, c'est que je...
Vous n'allez pas vous coucher, vous continuez à papoter pendant que lui est allé se coucher, c'est
exactement.
Ça.
D'accord. Exactement.
D'accord. Ok. Alors, c'est évidemment votre situation, Caroline, est une situation que l'on retrouve très, très souvent. Parce que comme je le disais tout à l'heure, la vie de couple est une vie complexe. Elle ne suit pas toujours l'élan de départ. Il faut régulièrement réaffronter de nouvelles situations. Les enfants en sont une, le travail en est une. Il y a aussi les deuils, il y a aussi les déménagements. Enfin, des tas de choses qui peuvent être extrêmement perturbants, qui sollicitent beaucoup les individus, l'énergie physique des individus et puis aussi les angoisses. Avoir des enfants, c'est peut-être aussi angoissant, on a peur de ne pas être à la hauteur. Avoir un boulot, peur de le perdre, ou avoir une entreprise, peur de ne pas y arriver, fait que, évidemment, toute l'énergie se dirige dans cette direction. Et on s'appuie en général sur le fait que l'on sait qu'on est ensemble, que l'on sait que l'on s'aime, que l'on sait qu'on a bâti ensemble, pour se dire que ça pourra attendre un peu plus tard. Et évidemment, de un peu plus tard à un peu plus tard, le temps passe et les relations se délitent. Donc là, ce que vous évoquez, en plus, vous arrivez dans un temps de votre vie. Vos enfants ont quel âge, Caroline ?
Du coup, 5 ans, 7 ans et 15 ans.
D'accord. Donc, vous avez vos enfants qui sont... Alors, le plus jeune va rentrer dans l'âge de raison. Donc, il commence à devenir grand et d'une certaine manière, avec une certaine autonomie, ne serait-ce que en termes... de projection, c'est-à-dire que l'enfant de 5 ans, il se projette bientôt, enfin je ne sais pas s'il parle déjà de l'école, qui est dans grande école, mais il est dans un âge de projet de grande école, donc d'autonomie. Oui. Donc ce qui fait que vous n'êtes plus la mère nourricière que vous avez été avec lui, et alors qui plus est avec les deux autres, qui sont eux déjà, alors pour l'aîné déjà adolescent ou adolescente, et pour le deuxième déjà rentré à l'école également. Donc vous êtes dans un temps où vous trouvez... Vous avez devant vous une sorte de liberté, toute relative, hein, on s'entend bien, parce que des enfants...
Non, mais carrément, je comprends ce que vous voulez dire, oui.
Voilà, donc c'est vraiment un changement, c'est-à-dire vous n'êtes plus vraiment, la pompe à lait, celle qui change, celle qui porte dans ses bras, voilà, tout, l'autonomie se crée, ce qui vous donne de l'espace pour vous.
Oui.
Et assez naturellement, eh bien, c'est un espace où se re-questionne la position de la femme, très naturellement, puisque la maman n'est plus la priorité, non pas que vous ayez abandonné votre rôle de maman, mais vous n'êtes pas coincée dans votre rôle de maman, vous re-questionnez votre rôle de femme. Et à défaut d'être d'épouse, puisque votre mari est dans l'incapacité d'habiter complètement la place, en quelque sorte, puisqu'il est particulièrement préoccupé par son travail et épuisé par son travail, eh bien évidemment, la femme se cherche et elle fait feu de tout, ce qui fait qu'elle fait feu de tout bois. Et qu'un jeune homme de 27 ans la voit comme une femme est particulièrement réjouissant.
D'accord.
Et ça, c'est tout à fait normal. Ce que je trouve intéressant d'ailleurs, c'est que vous en parliez à votre mari. Donc je dirais que dans un premier temps, c'est moins le jeune homme qui vous intéresse que réveiller votre mari endormi. Hein, parce qu'il n'y a pas que les princesses qui sont endormies.
Si je lui en parle, parce que j'aurais pu faire tout ça en secret. Et puis,
bien sûr.
Il y a plein de femmes et tant mieux si elles sont heureuses. Mais moi, je voulais surtout le réveiller et puis lui dire parce que... Mais voilà, il me questionne et je lui raconte tout et je me sens un petit peu coupable en fait. Et je, voilà, de recevoir des messages, c'est même pas moi où je réponds. Voilà, je vais vous dire honnêtement, c'est bonne journée, coucou, bonsoir, c'est rien. Mais
oui, mais c'est un lien. C'est un lien qui fait qu'il se rappelle à votre bon souvenir et qu'il ressollicite, en tout cas dans votre esprit.
Ça me fait plaisir, je le dis à mon mari, ça me fait plaisir, parce que je me sens un petit peu revivre qu'il y a quelqu'un qui pense à moi.
Absolument. Donc voilà. Vous voyez ce que vous dites, c'est que finalement, ce jeune homme, alors... que vous plaisiez à ce jeune homme, d'abord c'est merveilleux, hein, on va pas s'en plaindre, et j'ose espérer qu'il n'y a pas que ce jeune homme auquel vous plaisez, et qu'il y en a plein d'autres, et puis des plus âgés, et puis voilà, et ça c'est plutôt bien, et ça c'est la vie, et c'est plutôt sain, sauf que à cette occasion, enfin sauf, c'est pas sauf, il se trouve qu'à cette occasion, eh bien, d'abord vous vous sentez tout d'un coup réexister dans le regard d'un homme, si jeune soit-il, et vous en prévenez votre mari que vous existez dans le regard d'homme, de celui-là en tout cas, alors que c'est une façon de lui dire « j'ai le sentiment de ne pas exister dans ton regard à toi ».
Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon mari réagisse un petit peu ?
Alors je pense que c'est moins par... Les femmes souvent font les choses par... j'allais dire, elles prennent des détours. Et là, c'est ce que vous faites. Vous parlez d'un jeune homme... pour alerter votre mari. Or, au lieu d'alerter votre mari...
Après, c'est pas moi qui l'ai pris, c'est lui qui quand même m'a demandé un ami, sinon j'aurais jamais été chercher.
Oui, bien sûr. Bien sûr, mais à la fois, vous l'avez accepté, etc. Mais parce que ça vous faisait plaisir. Ouais. Surtout qu'en plus, il faut avoir à l'esprit que ce que vous faites du haut de vos 40 ans, dans ces contacts de réseau, eh bien, c'est pas tout à fait la même chose pour un homme de 27. Quand bien même il serait immature, il a grandi avec les réseaux, il a l'utilisation facile des réseaux jusque dans ce que ça raconte de façon de draguer aujourd'hui, dans ce que ça raconte d'intimité, etc.
Je suis pas d'accord, oui, parce que oui.
Alors que vous n'avez pas, ça ne veut pas dire que vous êtes toute jeune aussi, mais vous n'avez pas nécessairement grandi.
Non, pas du tout les mêmes sens de drague.
Absolument.
Choses, oui.
Vous étiez
c'est
dans...
très direct, c'est pas du tout comment on a fait avant.
Exactement. Donc du coup, là où vous n'y voyez presque que de l'échange épistolaire, lui, il y voit une autre chose. Il y voit une autre façon de rentrer dans une intimité, puisque vous faire un petit coucou à une heure ou à une autre, c'est une façon de rentrer dans votre univers, alors que dans la vraie vie, il ne sonnerait pas à votre porte. Et que donc, s'il était, j'allais dire de votre génération, il ne viendrait pas à n'importe quelle heure sonner à votre porte.
Non,
pour
mais
vous dire
je préférais même... Enfin, là, ce n'est même pas de la drague, c'est trop du rentre-dedans en disant coucou... voilà des choses qui, or que quelqu'un de mon âge ne me dirait pas ça. Moi, je vous avoue que je ne suis pas fan de ça, c'est trop.
Oui, et puis c'est trop et c'est pas assez. C'est-à-dire qu'il dit coucou parce qu'il ne sait pas parler. Parce que sinon, on parle, on dit tiens, j'ai vu ça, je pense à toi parce que je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Ce que ferait quelqu'un de 40 ans qui serait en conversation avec vous. Exactement. Alors que là, il fait des petites onomatopées, des émoticômes, des trois mots. Il dit coucou pour que vous, pour, comme on le jette un hameçon, puis vous, hop, vous gobez l'hameçon. Et puis du coup.
Sauf que là, maintenant, je ne rentre plus dans l'hameçon et non, je ne mordrai pas.
Voilà, très bien. Alors, non pas parce que ça ne serait pas bien, mais simplement, je veux éclairer l'autre sujet qui me semble être le sujet primordial, qui est que en fait, vous utilisez ça très légitimement pour alerter votre mari. Et au lieu d'alerter votre mari de cette manière-là, qui échoue, parce que du coup, votre mari y entend d'abord un besoin de remarquer son territoire, qu'il fait très maladroitement par un excès d'autorité ou par des disputes ou par des commentaires désobligeants, ou de ce, vis-à-vis de ce garçon ou vis-à-vis de vous. Donc, de toute façon, ça, c'est en fait un mécanisme qui ne fonctionne pas. Le mieux est encore de dire la vérité de ce qui est dessous. C'est-à-dire que ce jeune homme vous a tout d'un coup fait voir que vous étiez à voir et que vous aviez pris l'habitude d'être endormi à côté d'un homme endormi et que vous ne voulez pas être endormi alors que vous voulez retrouver votre mari, vous voulez retrouver une relation, vous voulez vous sentir une femme. On ne se sent pas une femme que par la sexualité, mais on se sent une femme dans le regard, dans l'attention, dans les échanges, dans les projets, et la sexualité en fait partie le cas échéant. Donc, donc je crois que la meilleure des choses, plutôt que d'utiliser ce jeune homme où finalement ça vous amène à quoi ? Peut-être que ça vous amène à quelque chose. Voilà.
J'aurais pu le faire autant que je voulais, mais je ne veux pas. Mais voilà, je ne passerai pas à l'acte, même si il y a eu des messages qui pourraient être peut-être un peu tendancieux. Voilà, jamais.
Oui, ça a nourri votre imaginaire. Ça a nourri votre imaginaire. Ça vous a fait vous sentir désirable.
Par contre, c'est ça. C'est que je me sens, je vais vous dire la vérité, je me sens pas importante, mais jolie. Me sens revivre.
Bien sûr, mais je l'entends bien. Et évidemment que ça nourrit vos fantasmes, votre excitation, votre ressenti de femme intérieure, extérieure. Ce n'est pas que jolie dans la glace. C'est aussi vivante à l'intérieur. Ce que votre mari a oublié et de voir quand il ne vous renvoie pas ce que vous êtes physiquement, et puis aussi dans son désir qui peine parce qu'il est fatigué. Alors, encore une fois, on a le droit d'être fatigué. Il y a des moments où on n'arrive pas à mettre un pied dans l'autre et du coup, on va vers ce qui est l'urgence, ce qu'il faut sauver en premier, son entreprise ou son boulot, etc. Parce que c'est ça la priorité qu'on pense, à tort ou à raison. Maintenant, il y a peut-être aussi un mari qui est déprimé et derrière cette fatigue, c'est autre chose qui se joue, le sentiment de ne pas être à la hauteur ou d'avoir peur de ne pas être à la hauteur ou d'avoir peur de perdre un peu de sa puissance, y compris virile. Ou alors, ça peut être aussi un homme qui a tout ce qu'il faut à la maison et donc, du coup, il ne s'en préoccupe pas. Et du coup, il alimente plutôt tout ce qui se passe et ce qui le stimule à l'extérieur, dont le travail fait partie pour nombre d'entre nous. Donc, je crois que le mieux, c'est de lui dire qu'à cette occasion, c'est pas ce garçon qui, en plus, a une façon de fonctionner très à lui et très à sa génération.
Oui, d'accord.
Voilà. Mmh. C'est lui dire, tu sais, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ma culture, c'est pas mon âge, c'est pas ma génération. Par contre, c'est extrêmement touchant que quelqu'un qui pourrait me considérer vieille, même si vous n'êtes pas vieille à 40 ans, mais parce qu'il a 27 ans, eh bien, vous avez l'idée que vous pourriez ne pas lui plaire. Eh bien, pas du tout. Il y a des hommes, évidemment, de 27 ans, parce qu'à 27 ans, lui se considère comme un homme et lui voit en vous une femme, et une femme mature, une femme mûre, une femme dans la force de l'âge, une mère. Eh bien, c'est très désirable, contrairement à ce que vous pourriez penser. Donc, je laisse ce jeune homme de côté et j'en reviens donc à votre mari, lui dire, tu sais, ça, c'est pas tellement mon intérêt. C'est pas tellement, c'était flatteur, mais ça m'a fait réaliser combien tu as oublié de me regarder, combien nous oublions d'échanger, combien tu ne me dis pas coucou, parce que tu vas me voir le soir ou parce que tu m'as vu le matin. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit plus quand on est en couple bonjour? Qu'est-ce qui fait que quand on se dit bonjour, on s'embrasse sur les lèvres sans sentir les lèvres qu'on vient de toucher? Qu'est-ce qui fait que quand on dort dans le lit de quelqu'un, même si on est fatigué et qu'on ne pourra pas faire l'amour, on oublie de serrer ce corps contre soi et de sentir le bonheur de ce corps?
Oui, mais par contre, c'est plus lui qui vient vers moi et du coup, c'est un petit peu moi qui le repousse maintenant.
Alors justement, est-ce que c'est par trop de frustration? Alors si vous permettez un instant, Caroline, nous allons faire une petite pause pub et je vous reprends tout de suite.
Vous aussi, venez vous confier à Catherine Blanc en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
En France, 3 millions de personnes sont atteintes d'une maladie génétique. En faisant un leg à l'Institut Imagine, vous pouvez les aider. Comme en témoigne la maman de Maya.
Maya souffre d'une maladie génétique pour laquelle il n'y a pas de traitement. En faisant un leg, vous apportez votre soutien aux familles. C'est nous donner l'espoir de comprendre, de traiter et d'un jour guérir nos enfants. C'est un geste d'amour.
Transmettez l'espoir, transmettez la vie. Faites un leg à l'Institut des maladies génétiques sur institutimagine.org.
Leclerc.
Alice, Seb, Alex, Isa, c'est quoi cette liste?
Les potes qui vont passer à la maison cet été.
Eh ben, j'espère qu'il y a un lave-vaisselle.
Bien sûr. Et en plus du 27 juillet au 7 août, pour l'achat d'un pack de 45 tablettes lave-vaisselle tout en un de finish, le deuxième est offert. Du coup, mon mec fait la cuisine, les potes remplissent le lave-vaisselle.
Et toi, t'appuies sur le bouton.
Voilà, les vacances quoi.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. Modalités magasins et drive participants sur www.e.leclerc.
Baleine à bosse, colonie de manchots, paysages glacés emblématiques. Cet hiver, embarquez avec Ponant en Antarctique pour une croisière expédition à la découverte du mythique continent blanc. Équipage français, gastronomie, débarquement en Zodiac en compagnie de naturalistes, à bord d'un superbe yacht à taille humaine, vivez l'expérience d'un voyage à la fois authentique et raffiné. Réservez dès maintenant votre croisière Ponant au 04 91 300 800 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
Catherine Blanc est à votre écoute sur Europe 1.
Et vous êtes toujours sur votre libre antenne. Je vous reprends, Caroline. Caroline, vous êtes là?
Oui,
alors je voulais terminer tranquillement sur ce que vous étiez en train de dire et qui était important, c'est-à-dire que votre mari, évidemment, il me paraît important de l'alerter sur le fait que vous avez souffert de ne pas exister suffisamment, ou plus exister, ou plus être vu, parce qu'on est tombé un peu dans les lieux communs de « on s'appartient, on vit ensemble, on bâtit ensemble, on a créé une famille et on ne remet plus jamais l'ouvrage sur le métier ». Et à la fois, comme vous dites, finalement, vous avez un peu tendance aussi, même quand il se rapproche, à l'éloigner. Et c'est ça toute la difficulté, l'ambivalence des relations de couple. C'est que quand on oublie de se dire « attention, nous ne faisons pas assez attention l'un à l'autre » ou « tu ne me vois pas », eh bien petit à petit, on en veut un peu à l'autre, on l'éloigne. Et puis, c'est plus difficile de réanimer une relation sur laquelle il y a quand même des jolies choses, certes, mais aussi plein de loupés, de ratés, de disputes, etc., par rapport à une idéalisation de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc, évidemment, on peut être très prompt à l'excitation, à projeter tous les possibles, toutes les folies avec quelqu'un que l'on ne connaît pas, parce qu'on ne le connaît pas et qu'on ne se confronte pas à la réalité de ce que serait un échange, de ce que serait un quotidien. Alors que son mari, bien sûr, on le sait. Et on sait tous les travers, toutes les erreurs, tous les tics, toutes les répétitions qu'on connaît par cœur, pense-t-on. Alors qu'en réalité, on ne connaît jamais par cœur son partenaire. Mais c'est simplement parce que nous jouons toujours les mêmes scénarios. Et tout l'art du couple, c'est d'ouvrir les scénarios, c'est se permettre d'autres choses. Et quand je dis scénarios, ce n'est pas des choses... qui sont farfelus et qui sont d'ordre sexuel. C'est les scénarios de la vie, des échanges, des sorties que l'on fait, des regards sur le monde, plutôt que de voir exactement les mêmes choses, toujours et encore et toujours. Tout simplement parce que les couples s'installent toujours dans un quotidien bien ficelé, parce que c'est rassurant, c'est ce qui permet la sécurité du couple. Mais c'est souvent pour cette sécurité mise en place par amour et par besoin aussi de pérennité, que nous abîmons un peu nos relations parce que nous oublions de les renourrir et de leur redonner un peu de vernis en quelque sorte. Donc pour terminer, Caroline, ce que je vous conseillerais, c'est déjà de voir que d'une certaine manière, ce jeune homme représente un peu l'huile sur le feu que vous mettez dans votre relation pour inviter votre mari à intervenir, et à la fois, êtes-vous vraiment prête à l'accueillir?
J'ai une petite question
coup,
dites-moi. Parce que je lui en ai parlé. Est-ce que j'aurais dû avoir mon petit jardin secret et ne pas lui en parler, du coup, des messages qui sont anodins?
En fait, il ne m'appartient évidemment pas de décider de ce qu'il faut faire ou pas faire. Je ne fais que noter que, plutôt que de le garder pour vous, ce qui évidemment peut vous appartenir complètement et nourrir votre imaginaire, et puis d'ailleurs cet imaginaire peut servir votre amour et votre sexualité avec votre mari aussi.
Oui.
On a tout à fait le droit, évidemment, d'avoir un jardin secret. Ça pose la question pourquoi vous ne vous l'accordez pas. Mais ça pose aussi la question pourquoi vous aviez besoin de lui exposer ce jardin secret, soit pour le mettre sur le grill, soit pour qu'il referme en quelque sorte ou qu'il interdise.
Je vous dis mon ressenti du coup.
Qui est le bon, puisque c'est vous qui agissez comme ça. Donc il n'y a que vous qui avez la bonne réponse.
Mais je pense que j'aurais pas dû dire parce que ça crée plus de problèmes que de... Voilà, je voulais lui dire parce que ça m'avait fait plaisir quand j'avais eu cette demande d'amis. Je voulais lui montrer. Et puis après, les messages, machin, je montrais. Voilà.
Je pense que vous-même, vous dites « je n'aurais pas dû ». Pourtant, je l'ai fait. Donc, ça pose évidemment la question pourquoi je ne m'autonomise pas dans ce que je fais et ce que j'arbitre moi-même. Pourquoi j'avais besoin de lui dire alors que
ça me pose plus de problèmes que si j'avais rien dit, saurait rien et puis voilà.
C'est ça, pourquoi j'ai finalement mis plus de tension dans mon couple alors que je voulais l'alerter sur ce qu'il n'y avait pas. C'est-à-dire comme si à défaut d'avoir eu une qualité de rechercher une qualité de lien, j'ai mis de la tension.
Je ne peux pas m'empêcher parce que j'aime mon mari. Je ne peux pas m'empêcher de lui dire si par exemple, je ne sors pas beaucoup, mais quand je sors boire un café toute seule avant d'aller chercher mes enfants à l'école et que quelqu'un me regarde, on m'a regardé, je raconte tout. Je ne devrais peut-être pas, je ne sais pas, je raconte tout.
Alors, je crois que maintenant, si je sors de ce sujet, parce que c'est à que vous qui pouvez décider, moi, je ne suis pas là pour inviter les gens à entretenir des relations même fantasmatique à l'extérieur, ça encore une fois, tout est possible du moment que chaque individu est en accord avec lui-même. Mais d'une façon plus générale, vous voyez que vous, même les conversations avec les copines, vous avez besoin de tout raconter. Et ce tout empêche aussi les relations amoureuses, parce que dans les relations amoureuses, il faut qu'il y ait toujours un peu une part de mystère qu'est l'autre. Qu'on aille le rencontrer et que ce qui sollicite, ce qui fait que vous êtes toute guillerette, pétillante, c'est aussi l'échange avec les copines, c'est aussi le film que vous avez vu, c'est aussi l'émotion qu'a déclenché telle et telle conversation, le regard.
Il faut garder un petit peu son jardin secret et pas tout raconter.
Si vous n'avez pas de jardin secret, votre corps n'est même plus un jardin à découvrir parce qu'il n'est pas secret, il est connu, il appartient déjà à l'autre. Et du coup, ça crée un peu de distance, de fait, ou en tout cas de sentiment que ça m'appartient et que je n'ai pas besoin d'aller y voir d'un plus près. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des secrets, qu'il faut faire des violences, s'interroger sur la difficulté que vous avez à vous laisser tranquillement arbitrer de ce qui vous va ou ne vous va pas, vous convient ou ne vous convient pas, et pas demander à votre mari, qui devient du coup un papa ou une maman, qui arbitre de ce qui se fait ou ne se fait pas, parce que là, ça ne va pas dans le sens de l'élan du couple.
D'accord, ok.
Voilà, Caroline.
Écoutez, merci beaucoup.
Je vous en prie, en tout cas. Vous êtes, maintenant que vous savez que vous êtes une femme belle et une femme qui peut l'être, de grâce, n'attendez pas le regard des autres, voyez-le toute seule comme une grande, que vous êtes une femme qui mérite de se développer, d'épanouir sa féminité.
Que vous me dites, ça me touche beaucoup, je vais dormir tranquillement.
Absolument, dormez paisiblement et rêvez le cas échéant. ça mange pas de pain.
Merci beaucoup.
Je vous souhaite.
Et puis, je vous rappellerai à l'occasion pour vous donner mes nouvelles.
Avec plaisir, avec plaisir. Passez une très
beaucoup.
Bonne soirée, une bonne nuit, Caroline. Au revoir.
Merci, au revoir.
Venez vous confier à Catherine Blanc sur Europe 1.
Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say
leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to
ce magnifique duo, même si Kelvin n'est pas tout à fait d'accord avec moi, mais en tout cas, je trouve ce duo magnifique, Mary G. Blige.
La libre antenne d'Europe 1, Catherine Blanc.
Et nous recevons à présent Jocelyne. Bonsoir Jocelyne.
Bonsoir Catherine Blanc.
Bonsoir.
Est-ce que Kelvin, votre... parmi vos collaborateurs, que je trouve adorable.
Il est adorable. On n'est pas d'accord sur YouTube, mais il est absolument adorable.
Absolument, adorable. Ah oui, adorable.
Oui, Et donc, vous
est-ce qu'il vous a entretenu du sujet qui me occupe depuis longtemps, enfin depuis longtemps, depuis que je me rends compte que personne ne me fréquente.
Alors, il m'a dit deux mots, mais je dois vous avouer que je préfère que nous les reprenions d'accord. ensemble pour que nos auditeurs d'abord puissent suivre le fil.
D'accord. Alors,
et que je oui. puisse moi aussi bien accueillir ce que vous voulez me dire maintenant, parce que parfois entre le coup de fil...
Je vais avoir de la difficulté peut-être, parce que j'ai une énorme difficulté à exprimer ce que j'éprouve, ce que je pense.
Eh bien, moi, je vais peut-être avoir de la difficulté à vous aider, mais je vais vous aider, croyez-le bien.
Ah, mais j'en suis sûre. Avant toute chose, parce que j'en ai parlé longuement hier, et j'en ai parlé tout à l'heure quand Calvin m'a appelé, et justement à l'aune de ce témoignage de cette dame, quand on avait, quand on pouvait voir des jardins secrets, mais en fait, ce n'est pas vraiment des jardins secrets. Hein. Mm-hmm. C'est un message subliminal.
Mm-hmm. Tout à fait.
Voilà, hein. Moi j'ai entendu comme ça. Mais justement, moi depuis que je vous découvre, hein, vous êtes extraordinaire. Vous remettez tout à plat.
Je vous remercie, je sais.
C'est extraordinaire, c'est-à-dire que ça ne nous regarde pas et en même temps ça nous concerne.
Ah, vous êtes gentil. Bah, je crois que
ah, oui,
de toute
non,
façon...
Je vous assure. Et je pense en plus... Il y a de l'écriture dans ce que vous dites. Vous relisez et vous réécrivez, en fait. Vous réécrivez. Ah oui, je trouve ça extraordinaire.
Merci infiniment, Justine.
C'est oui, absolument, absolument. Je trouve que vous avez compris ce que je dis, que ça ne nous regarde pas et en même temps, ça nous concerne.
Mais parce que je pense que de toute façon, l'histoire humaine est une histoire universelle, quelle que soit la forme, la couleur qui est la nôtre. De toute façon, nous parlons de quelque chose qui nous concerne tous, puisque...
Absolument.
Et c'est ça qui est extrêmement... Enfin, que je trouve merveilleux et ce qui me fait aimer écouter les uns et les autres, déchiffrer...
Parce que vous aimez votre métier, d'abord.
Absolument.
Vous aimez ce que vous faites, d'abord.
Ah, oui, je l'aime.
Ça se sent, hein, ça s'entend.
Merci.
Je pense.
Eh bien, moi, il y en a une qui le sait, c'est pas mal.
Vous, ah, mais oui, mais je pense que ça aussi, je pense que c'est le résultat d'un long travail. On n'arrive pas à faire ça, moi, je ne pourrais pas le faire, décortiquer, mettre tout à plat, l'état des lieux, enfin, c'est extraordinaire. Vous ne vous entendez pas, hein. Moi, je prends un pied extraordinaire.
Ah bon, écoutez, alors profitez-en.
Parce que ce qu'on découvre, c'est que depuis la nuit des temps, nous avons quelque chose qui nous différencie des autres êtres qui sont extraordinaires, les plantes, les arbres, les animaux, c'est que nous nous racontons des histoires.
Absolument.
Nous ne finissons pas de nous raconter des histoires. Et en plus, on les raconte aux autres, les histoires que nous nous racontons. C'est extraordinaire.
C'est ça. Et souvent, d'ailleurs...
Vous connaissez le jeu de la secrétaire ?
Non, alors dites-moi.
À ce titre-là, j'y pense tout d'un coup.
Oui, dites-moi.
C'est 10 personnes. Le premier raconte une histoire au deuxième, au troisième, etc. Puis on voit ce qui reste à la fin.
Mm-hmm.
Vous ne savez pas le jeu de la secrétaire ? Bon, bref.
Non, là, c'était plutôt
alors,
le...
Alors, ça, c'est évidemment... Je mets un temps infini. Hein, c'est laborieux chez moi pour pas... voilà, non, mais vraiment, c'est balèze ce que vous faites. C'est balèze.
Alors, vous ne voulez pas m'expliquer le jeu de la secrétaire, donc c'est le
écoutez,
téléphone arabe.
Je fais partie d'un genre particulier, oui. Je crois que je fais partie des gens qui sont zébrés.
Oui, c'est formidable, c'est formidable.
Non, je ne sais rien, moi.
C'est formidable, mais c'est formidable, sauf que c'est compliqué à vivre parce que tout le monde
c'est
n'est pas
compliqué.
Zébré.
Tout le monde n'est pas zébré.
Et à la fois, être comme tout le monde, c'est peut-être très ennuyeux.
Je n'en sais rien, je n'en ai pas fait l'expérience.
Alors,
j'étais parmi un million de zèbres, peut-être que je m'emmerderais, hein, c'est possible.
Peut-être, voilà. En tout cas, il y en a quelques-uns, je vous assure, vous n'êtes pas la seule au monde.
Oui, alors, vous connaissez, mais plus sérieusement là, oui. Parce que c'est... plus sérieusement, quel est le pourcentage des gens qui sont comme ça affectés de cette anomalie ?
Ah non, c'est pas une anomalie, puisque avoir un cerveau qui a une capacité de faire des connexions de façon extraordinaire et donc du coup de s'enrichir extraordinaire.
Oui, vous pouvez le dire.
Voilà, mais sauf que de temps en temps, ça fait un peu des difficultés pour celui qui a ce cerveau-là, parce que ça va tellement vite qu'il n'a pas le temps de vivre et de partager les choses.
Oui.
Mais c'est un ordinateur qui est une bombe, de façon incroyable. Il y en a qui des ordinateurs qui rament, et puis il y en a d'autres. C'est la 5G à côté, elle peut se rhabiller.
Vous ajoutez à ça, je ne sais pas d'où ça vient, si c'est biologique, génétique, enfin, nous sommes un mystère. Hein.
Mm-hmm.
Si vous rajoutez à ça un contexte familial qui vous a permis de vous ouvrir à des tas de choses. Alors là, la bombe, elle est, je vous assure.
Oui, et à la fois, vous savez, le plus dur pour les hauts potentiels, c'est justement quand ils sont dans des univers qui ne les ouvrent à rien. Et du coup, comme ils s'ennuient terriblement, eh bien, ils souffrent encore plus parce que rien ne vient les nourrir. Parce que quand un cerveau est ainsi fait, il a besoin d'être nourri. Alors, si vous avez grandi dans un univers riche de culture...
C'est ce que je disais là. Mm. Je suis arrêtée dans ma vie parce que je mène un combat très dur. Et je disais à des tas de gens que je rencontre mais que je ne revois pas, je nourris ma petite personne de deux manières. Mmh. De manière, parce que j'adore cuisiner.
Oui.
Et sur le plan physique, je ne peux pas faire de sport. J'ai fait énormément de sport, j'en peux plus en faire. Mmh. On ne peut pas tout faire, ne pas dormir, etc. Et puis, effectivement, me nourrir. Mmh. Me nourrir. J'ai écouté cette nuit sur France Culture, je vous recommande, si vous avez le temps, hein, parce que je pense que vous devez avoir peu de temps avec votre travail, enfin, j'en sais rien.
Oui, en ce moment, mes journées sont un peu longues, en effet.
C'est un autoportrait fait par lui-même, à l'occasion d'une interview faite par Michel Simon, oui, critique de cinéma, l'autoportrait, mais extrêmement bouleversant, de Roland Barthes.
D'accord.
Il est chez lui. France Culture, à l'époque, je ne sais pas s'il y a 20 ans, 30 ans, oui, il va avoir 60 ans dans les années 80, je crois. Et donc, tout seul, il va parler de lui. C'est un exercice très dur. Alors, il y a des silences parce qu'on l'entend allumer une cigarette. Mm-hmm. C'est extraordinaire. Voilà le genre de truc qui me nourrit.
Ah oui, je comprends.
Mais je ne suis pas issue d'une famille d'intellectuels ni de bourgeois. Dieu merci.
Bon, en tout cas, vous êtes allé chercher partout où vous pouviez vous nourrir. Et plus vous êtes évidemment nourri,
je suis allée très loin, oui.
Plus ce cerveau, d'abord, y a trouvé son compte. Vous y avez trouvé aussi un équilibre, parce que souvent la difficulté des zèbres ou des hauts potentiels, c'est justement qu'un le cerveau va très vite. Donc il y a une maturité intellectuelle qui se fait et qui se réclame d'une certaine manière. Mais pour autant, le développement psycho-affectif suit son cours normalement. Et évidemment qu'il y a un décalage entre le développement psycho-affectif et le développement intellectuel, ce qui fait la souffrance des zèbres.
Absolument, parce que effectivement, sur le plan affectif, des sentiments de nos vies, nos relations affectives, que ce soit familiales, amicales, amoureuses, ce n'est pas différent des autres.
Non, bien sûr.
Donc effectivement, il y a un décalage, je crois.
Bien sûr, et surtout que comme tout cela se met en place quand on est tout jeune, après on va le vivre dans nos corps d'adultes et nos vies d'adultes, mais comme ça se met en place quand on est tout jeune, ce qui se met en place suit le cours normal des choses, mais le cerveau, lui, ayant une vision beaucoup plus mature, il y a un décalage comme si on était...
C'est une vision plus mature, c'est vrai que ça nous place au-delà du lot.
Oui,
je ne pense pas que ce soit en termes de maturité, je pense que c'est en termes d'ouverture extrême.
Oui, donc...
À des tas de choses, tas de domaines de connaissances.
Absolument, d'informations en fait.
Voilà, moi j'ai fait moi je suis à la fois une manuelle, une intellectuelle, et il n'y a pas de différence.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que j'accorde autant d'importance à ce que je peux écouter d'un autoportrait fait par lui-même, de Roland Barthes ou n'importe quoi. Voilà, j'étais heureuse d'entendre Roland Barthes parce que j'ai lu il y a 30 ans pour ma passion pour la photographie argentique de la chambre claire. Voilà, donc le lien. Et j'aurais aimé faire dans ma vie un jour, j'en sais rien, parce que toutes les choses que j'aurais voulu faire, c'est quelque chose sur le plan de l'écriture, quelque chose qui a à voir avec ce qu'il a fait un jour entre l'image et le texte. Voilà.
Mm-hmm.
J'ai toujours adoré faire des... Enfin bon, sachez, je ferme la parenthèse.
Oui, sinon on va s'embarquer.
C'est le zèbre qui parle.
Voilà, mais c'est très bien parce que ça permet de comprendre effectivement toute la difficulté que vous pouvez rencontrer et que rencontrent les gens qui vous croisent. C'est que effectivement, vous partez sur un sujet et tout d'un coup, le cerveau réclame d'autres choses, il réclame une ouverture.
Et puis vous faites des associations.
Vous faites des associations d'idées. et vous partez sur un autre projet, une autre écriture, en quelque sorte. Vous parliez d'écriture tout à l'heure. En fait, vous êtes en permanence en train d'écrire une chose, puis comme si vous écriviez plusieurs livres à la fois, plusieurs courriers à la fois.
Et puis en voyage. En
exactement,
voyage.
Bien sûr. Et donc les gens en face de vous, ils restent statiques, ils attendent la fin d'une lettre.
Ils comprennent pas.
Et ils ont du mal à alimenter d'ailleurs ce que vous êtes en train d'écrire, parce que pendant que
possible.
Vous êtes en
train... Dès lors que... Oui, c'est possible, c'est fort possible.
Bien sûr. Alors,
j'ai fait la connaissance il y a 3 ans de quelqu'un d'ailleurs avec qui j'ai découvert ce que c'est. Je vous ai écouté attentivement l'autre jour pour les relations de perversion, de masochisme, je ne sais pas. Mm-hmm. Bon, j'ai su m'en sortir parce que ça m'a fait rigoler. Mais j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui faisait des conceptions de voyage et qui a travaillé pour une compagnie là, très connue.
Bon, c'est pas grave, on va pas leur faire.
Pas Nouvelle Frontière, Nouvelle Destination. Voilà, bon, c'est un concepteur de voyage. Il a fait énormément de choses. C'est un grand passionné de tennis, enfin bon, beaucoup de choses à son arc, il a traversé l'Afrique, et à 23 ans, il était au fin fond du Canada, enfin, bon voilà, quelqu'un qui a eu une vie riche, quoi, passionnante. Bon, évidemment, je suis tombée amoureuse de lui. Enfin, il m'a appelé, bon, c'est... Enfin, je ne regrette pas, je l'ai mal terminé, mais donc, on en retire quelque chose. Là, j'ai appris quelque chose de moi, pour le
bien,
coup.
Bien sûr.
Mais un jour, il arrive à la maison, il me dit, toi, tu es extraordinaire, parce que tu voyages en restant chez toi.
Alors, restons sur cette virgule que vous venez de mettre, Jocelyne. Je vous reprends tout de suite.
Oui.
Pardonnez-moi, Jocelyne, pour
cette interruption. C'est un plaisir d'être avec vous, parce que là, j'entends encore des nuisances sonores. C'est une communauté de Géorgiens. Et d'ailleurs, on n'est plus là du tout dans la civilisation avec eux. C'est des gens qui vivent sans foi ni loi. Voilà, c'est comme ça.
D'accord.
Bon, je ferme la parenthèse. Mais vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous. Je vous en remercie. Très chaleureusement et très, très honnêtement, je vous assure.
Eh bien, écoutez, je vous remercie moi aussi. Je suis heureuse d'échanger
oui,
avec
vraiment.
Vous. Alors, nous n'avons plus beaucoup, beaucoup de temps, mais je voulais revenir puisque vous
me parlez. Donnez-moi combien de temps il me reste pour
nous
pouvoir
reste,
être un peu plus concise.
Il nous reste 7 petites minutes, même pas.
7 minutes,
voilà,
bon.
Donc, juste, je voulais juste revenir, si vous permettez, Jocelyne, parce que vous nous avez bien éclairé sur le fonctionnement, évidemment, du zèbre et la souffrance du zèbre et l'enthousiasme aussi du zèbre. Et puis, à la fois, vous me disiez combien c'est du coup difficile de pouvoir communiquer avec les autres qui restent statiques, un petit peu comme si vous étiez...
Ils ne restent pas statiques, c'est-à-dire...
Eux, ils marchent quand vous galopez quand même. Hein,
Voilà.
Alors, la course ne se fait pas
ajouter,
pareil.
Puisqu'il nous reste 7 minutes, on pourra reprendre demain ou après-demain.
Ben, bien sûr.
Parce que c'est pas seulement depuis mon enfance, c'est tout au cours de ma vie, sur un plan personnel, et professionnel. Si vous saviez, mais alors ça vaut son pesant de cacahuètes, hein, je vous assure.
Alors justement, moi...
Permettez-moi, parce que ça vous donnera de l'eau à votre moulin. Mm-hmm. C'est comme moi, il y a 20 ans, je vais situer il y a 20 ans, hein, ce sera plus clair. Il y a 15 ans, à peine 15 ans, ça nous ramène, 15 ans, moi je ne me posais pas de questions, je me trouvais normal, hyper normal. C'est depuis que je rencontre des problèmes... que je ne puisse pas en parler avec quiconque, mais de graves problèmes. Hein. Voilà.
C'est-à-dire que vous avez découvert que vous étiez zèbre à l'âge adulte.
Ah oui, absolument, parce que je n'arrive pas à me faire comprendre. Donc, je me dis, c'est pas possible. Je n'arrive pas à te faire comprendre.
Et, voilà. et est-ce
Par
que
contre,
vous avez, Jocelyne, créé un couple, une famille, ou pas du tout, justement?
Alors non.
Non.
J'ai voulu, pour une raison que je ne dirai pas là, j'adorais les enfants, j'étais monitrice de colonies vacances, c'est-à-dire ça commence à 16 ans, de prendre des décisions. Mm-hmm. Je travaille l'été en étant lycéenne et je vais faire un stage au CMA, je vais être monitrice de colonies vacances. Et qu'est-ce que vous me posez là? Oui, alors voilà. Et donc, non, je n'ai pas construit de famille. Par contre, il y a eu 2 hommes importants dans mon existence.
D'accord. Donc
quand j'arrive à Montpellier à 23 ans. Et cet homme, quand j'étais triste ces temps derniers, je ne sais pas pourquoi, ces photographies, ces images de lui, les morts en un cancer généralisé, réapparaissent.
D'accord.
Et je me disais, en fait, de compte, c'est lui qui t'a reconnu. Quoi. C'est lui. Je fréquentais des hommes, hein, mais ça a été le premier grand amour de ma vie.
Et vous êtes resté longtemps avec lui?
Non, ça a été une grande passion, mais voilà, je ne pouvais pas être à la fois une confidente, une amoureuse, une sœur. une maîtresse et une maman.
Bien sûr, bien
je
sûr.
Je pense. Mais cet homme-là, c'est ta vie, hein. C'est ta vie, parce qu'il m'a fait surtout confiance sur un plan professionnel. Mmh. Et surtout sur ma capacité à jauger des situations professionnelles. Mmh. C'est lui qui m'a permis d'être en charge du Fonds régional d'art contemporain Languedoc-Roussillon. Et je n'ai aucune formation là-dedans.
D'accord.
La seule chose qui m'a permis d'avoir un regard sûr, c'est qu'à l'âge de 16 ans, à Paris, je fais la découverte de l'œuvre de Rembrandt à Paris. Voilà.
Donc vous avez été dans un univers qui vous a nourri au combien ? Vous avez pu...
Mais 10 ans avant, je n'aurais pas pu imaginer une seule seconde que j'aurais ce destin. Mais absolument pas.
Et c'est ça qui est merveilleux. C'est là que l'on voit le côté magnifique d'un cerveau de zèbre.
Ah oui, c'est ça. Parce que j'avais quoi, 27 ans, donc 27 ans, vous enlevez 10 ans, 17 ans. Mm-hmm. Moi, à 17 ans, je suis à quoi, en seconde. J'avais un an de retard parce que je suis née en janvier. Voilà. Et 10 ans plus tard, vous ignorez totalement que vous êtes à 600 km de chez vous, dans une autre région, qui n'a rien à voir avec la région natale. Moi, je suis bigourdane, je suis après bigourdane, je suis, comment on dit les... Voilà. J'ai grandi au pied des Pyrénées.
D'accord.
Et je me retrouve dans le Languedoc, quoi. La capitale du Languedoc. Rien à voir. En plus, je n'ai pas cette mentalité. En plus, j'ai des origines... Enfin, j'ai un huitième de sang russe. Donc, rien à voir. On m'aurait dit, mais vous serez en charge de 366 œuvres d'art. J'aurais dit, mais non, mais vous plaisantez, quoi.
Mais c'est merveilleux, vous savez. Alors j'en profite.
C'est ça qui est parfait. Moi, je n'arrête pas. Je ne pensais pas à mon passé. Hein. C'est à travers cette épreuve qui fout en l'air mon existence que je me remets à revisiter mon passé.
Oui. Mais vous voyez,
je ne pensais pas à mon passé, moi.
Vous voyez, c'est intéressant parce que on a le sentiment aujourd'hui que l'on ne peut rien faire sans l'avoir appris scolairement. Et évidemment qu'il y a des personnes comme vous qui ont su attraper au vol parce que leur cerveau...
Oui, apprendre, oui.
Voilà,
apprendre autrement, oui.
Exactement.
Apprendre autrement.
Et en faire justement toute l'occasion de votre enrichissement personnel,
oui,
de votre nourrir votre curiosité. Qui a nourri de la curiosité? Et ainsi
de suite.
Ceux qui
m'ont précédé.
Bien sûr. Et,
ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas, c'est pas de l'ordre de la génération spontanée, vous savez. Moi, j'ai coutume de dire... que je suis ce que je suis pour 5%, le reste, c'est 95%, c'est ceux qui m'ont précédé, ceux qui ont fait celle que je suis. Cet homme que je rencontre, à peine arrivé à Montpellier, en plus qui dont le nom a des consonances slaves.
Vous trouviez des choses
qui
vous parlaient, vous aviez envie de réveiller le côté slave en vous.
Absolument, j'ai eu la chance de partager ça, l'âme slave, qui est indéfinissable, c'est indéfinissable. Donc, c'est ça qui est fou.
Et alors,
j'ai rien construit dans ma vie, mais j'ai eu ces rencontres-là.
Alors, pour clore un peu, Jocelyne, ce que je trouve important aussi de dire à nos auditeurs à l'occasion de votre joli témoignage, c'est que finalement, dans notre vie, chacun a notre vitesse. Alors, vous au triple galop, d'autres peut-être plus calmement,
oui,
on va dire.
Alors, je vous dis au triple galop, moi je vis dans le temps long. Calvin, il a pu me joindre la troisième fois. Je vis dans le temps long. Je ne réponds jamais dans l'urgence.
Alors surtout, vous ne répondez pas à l'autre quand l'autre le désire. Vous n'allez qu'au rythme de votre propre désir, et bien évidemment.
Oui, parce que j'ai besoin de temps long,
de vous approprier les choses.
Ah oui, oui.
Absolument. Et donc, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que vous voyez combien un individu, et qui plus est là vous en l'occurrence, mais les individus en général, ont besoin d'aller, de cheminer tranquillement, et ils vont à la rencontre même de leur histoire, pas seulement celle qu'ils projettent vers le futur, mais aussi leur passé. Vous êtes allé retrouver des choses pour élucider.
Pour élucider des
points obscurs de son histoire personnelle.
Absolument.
Et ça, c'est assez délicieux
de
voir.
Alors écoutez, je vous interromps, Catherine,
mais parce c'est moi
que
qui
je voulais
devoir
vous demander, comment fait-on pour rencontrer d'autres personnes?
Alors écoutez, si vous voulez bien, votre question, comment fait-on pour rencontrer
absolument
d'autres personnes?
Eh bien, stratégie, voilà.
Alors si vous le permettez, Jocelyne, ce n'est pas en 40 secondes que je vais pouvoir vous le dire.
Absolument.
Et il faut que nous raccrochions
pour ça
que
je
toutes les deux.
De vous interrompre.
Mais si vous le permettez, nous reparlons encore demain ou après-demain à votre convenance.
D'accord.
Selon
absolument
quand les astres
pas demain, parce qu'il y a trop.
Eh bien,
trop, hein,
eh bien vous discuterez de tout ça avec
voilà.
Calvin, alors. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Merci, vraiment.
Au revoir, Jocelyne.
Vraiment, je vous remercie de tout cœur.
Bonne soirée.
Bonne soirée à vous.